yeah, oh yeah, everything, everything, everything gonna be alright this morning. Woo!
Il est des moments dans la vie du monde où le temps passe plus vite que d'habitude et les événements se succèdent avec plus de force. La période de 1967 à 1970 en fait partie. Ces 4 années ont vu passer des blocs entiers d'histoire avec un grand H. Des moments à la fois traumatisants et jouissifs qui ont hypnotisé le monde des hommes jusqu'à aujourd'hui. Cette période a vu la mort de Che Guevara en 67 et la fin de l'idéal révolutionnaire. La naissance du mouvement de révolution étudiant et ouvrier en 68 qui changea les mœurs en France pour toujours. Mais aussi un homme sur la lune avec Neil Armstrong et l'assassinat du président Kennedy en 69. Pour finir en 1970, comme pour signifier la fin d'une ère, la mort du roi du blues psychédélique, Jimi Hendrix. Côté musique, et c'est ce qui va nous intéresser, on bascule carrément dans l'orgie. Presque chaque album sorti est devenu légendaire. Pêle-mêle, tous les meilleurs albums de Jimi Hendrix, Sgt. Pepper, Abbey Road et le White Album des Beatles, Nina Simone Sings Blues, Beckard's Banquet des Stones, Tommy le Live at Leeds des Who, Umaguma des Floyd, The Velvet Underground, les Zeppelin 1, 2, 3, Cosmos Factory des Creedence, Fun House des Stooges, Cactus de Cactus, tous des albums qui sont devenus plus que des classiques. Avant de nous réveiller avec une sacrée gueule de bois, avec le choc pétrolier du début des années 70, qui a engendré chômage, pauvreté et musique disco, nous allons profiter de cet amalgame de génies cosmiques qui ont animé l'ultime partie de la sixième décennie du XXe siècle.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de The First Time Made Blues, l'émission 100% blues de Studio Zef, mais aujourd'hui on passe pas de blues. Là ces derniers temps en fait on s'évade un peu, franchement on colle pas au blues, on a envie de changer un peu. Et donc aujourd'hui le thème de l'émission c'est le rock de la fin des années 60, ça va être...
70 inclus,
donc 67, 68, 69, 70, voilà.
Ouais, tout à fait.
Et on commence avec du lourd.
Ouais, du lourd, hein. Bah, qui de mieux pour illustrer ces années-là que Jimi Hendrix sur son premier album, Are You Experience. C'est le morceau I Don't Live Today. C'est un morceau sorti donc, en 1967 qui est présent sur l'édition américaine, qui était absent sur l'édition anglaise. Donc ce morceau est voilà, connu, bien évidemment, des connaisseurs de Hendrix, mais un petit peu plus discret, on va dire. Voilà, c'est un morceau assez... fumeux, voilà. Et donc, comment présenter Hendrix ? Bon, on va pas le présenter.
Non, voilà. Ouais, inutile.
Allez, on écoute ça.
Well, I'm just can't say what I know for sure.
I Don't Live Today, voilà un morceau du premier album de Jimi Hendrix, Are You Experience. Et en fait, donc premier album sorti en 1967 de Jimi Hendrix. Et il y a eu d'autres sorties très importantes pendant cette année-là, en 1967. Ouais. D'autres premiers albums comme les Doors, le premier album The Doors. Grateful Dead, c'était le premier album aussi, Grateful Dead.
Ouais, tous les premiers albums à l'époque portaient le nom de
du groupe.
Nom de l'album était tout simplement le nom du groupe.
Ouais,
et pour, pas tous, mais beaucoup.
Hein. Ouais, et pour continuer, donc The Velvet Underground and Nico, c'était The Velvet Underground aussi. Voilà quoi, enfin des premiers albums hyper importants qui ont marqué l'histoire du rock. Et donc pour illustrer cette année-là, 1968, on va écouter les Beatles, mais avant ça, en fait, 68, ça a été une
on
année...
change d'année, c'est ça. On passe à l'année 68.
Voilà. Ouais. Exactement, je m'embrouille. Donc on passe à l'année 68, il y a eu des événements marquants pendant cette année-là.
Oui, bah, c'est vraiment la clé aussi de cette émission, c'est de mettre en lumière des événements assez importantissimes au regard de l'histoire. C'est vraiment des années qui ont été très intenses, tant au niveau musical que de l'histoire. Donc mai 68, bon voilà, révolte étudiante portée notamment par Danny le Rouge.
Danny le Rouge.
Voilà, De Gaulle parlera de chienlit, définition chienlit, désordre, anarchie sociale ou politique. Donc je n'ai pas forcément compris en quoi c'était négatif de la part de... Donc voilà, l'assassinat de Martin Luther King, voilà, le pasteur noir impliqué dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, chose qu'on évoque assez souvent dans nos émissions. L'assassinat de Robert Kennedy dans des circonstances qui restent encore aujourd'hui assez floues. Et les fameux JO de Mexico avec des records à l'appel grâce à l'altitude. Ça, c'est pour le côté sportif. Et surtout, le point levé de Tommy Smith et John Carlos, respectivement premier et troisième du 200 mètres. Donc, une discipline reine des JO, le sprint, le 200 mètres. Voilà, pour montrer leur appartenance au mouvement des Black Panthers.
Ouais, on a tous la photo,
ça donne des frissons.
La photo en tête où ils ont le point levé avec le gant noir. Là.
Voilà, c'était vraiment des années de...
De révolte, quoi,
de
tout
révolte,
simplement.
Ouais.
On a envie d'imposer ses idées. Donc, 1968, pour illustrer cette année-là, on va écouter les Beatles,
un morceau
Helter
révolté
Skelter,
aussi.
Voilà, de The White Album. Donc, c'est un morceau qui a été écrit par Paul McCartney. Il a été inspiré, en fait, il lui a été inspiré suite à une interview qu'il avait entendue de Pete Townshend des Who. Donc, le Pete Townshend présentait son morceau de l'époque, I Can See for Miles, et il expliquait que ça avait un son hyper lourd. Brutal, sourd. Et en fait, McCartney a écouté ce morceau-là, il l'a trouvé en fait plutôt banal, donc il s'est dit, bah moi, il veut du lourd, il veut du brutal, bon bah alors je vais sortir mon morceau, Helter Skelter, et d'autant plus que McCartney, lui, à l'époque, il était plutôt catalogué comme un mec qui écrivait des balades, des chansons
légères,
et ça l'a ennuyé, quoi. Donc là, avec ça, il a imposé son style, quoi. Helter Skelter. To the bottom, I go back to the top of the slide. Well, stop and a turn, and I go for a ride. Till I get to the bottom, and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. Yeah. Helter Skelter des Beatles, Helter Skelter qui veut dire, si on peut l'interpréter, désordonné, des bandades, pêle-mêle. Bon, bah, on voit que les dernières notes, c'est un peu ça quand même. Hein.
Ouais, c'est un des morceaux qui c'est un morceau qui a une importance, notamment pour tous ceux qui écoutent du hard, quoi, du hard rock, peut-être même du metal. C'est un des premiers morceaux moderne, on va dire, au niveau du hard rock, quoi, entre guillemets moderne, mais qui vraiment envoyait des gros accords de guitare, enfin une belle réussite de Paul McCartney. Ouais.
Qui en a inspiré certains d'ailleurs.
Ouais, qui en a inspiré certains, ça a lancé vraiment le hard, le rock assez dur en Europe, quoi, on va dire ça comme ça. Faut se dire qu'en 67, il n'y avait pas forcément que ça qui passait à la radio, quoi.
Ouais, mais même pas du tout, ce morceau a été repris aussi.
Oui, une belle reprise. On voulait vous en parler de Cadavar. Donc c'est un groupe allemand, si je ne m'abuse, et qui fait du rock, du gros rock assez dur, hein,
ouais,
qui joue souvent avec Blues Pills et qui fait partie de ce même label, la Nuclear Blast, ça s'appelle. On vous invite à aller voir. Il y a du métal aussi sur ce label-là, mais on vous invite à aller voir ça. Donc Cadavar et Blues Pills. Et donc Cadavar refait une reprise qu'on a vue en live à Dublin, assez impressionnante, enfin vraiment bien, vraiment très intéressante.
Ouais, il y a du cheveu long qui se balade, qui se secoue du nord au sud là.
Ouais.
C'est vrai
qu'il y a du cheveu. Ouais. Ouais. Si vous aimez pas les cheveux, il faut pas y aller. Mais bon, sans parler de ça, c'était pas mal, quoi. Voilà, c'était vraiment une bonne reprise. Donc on va continuer.
On continue en 68.
Voilà, 68, autre groupe majeur qu'on passe souvent dans cette émission, puisqu'il s'agit de Savoy Brown et c'est l'album Getting to the Point. Le nom du titre qu'on va vous passer, c'est Test and Try Before You Buy. Et c'est une reprise, hein, c'est un standard de blues. Donc voilà, 1968, Savoy Brown, c'est un groupe anglais qui a cartonné surtout aux États-Unis. Il y a eu de multiples formations autour de Kim Simons, le guitariste, voilà, qui était le seul membre permanent. Ils ont fait de nombreux disques. Encore une fois, on vous réinvite à aller voir Savoy Brown. On écoute Taste and Try Before You Buy.
And try before you buy. The army says now, sign on for fire. The army give you a real man's life. You and I don't dig that army jive. Taste and try before you buy. Still ain't done me right now. Taste and try for you. And try before you buy.
Joseph
91.1
The first time I met the blues. Voilà, vous venez d'écouter Test and Try Before You Buy de Savoy Brown. C'était le deuxième morceau de 1968 qu'on vous a passé. On continue hein, avec la thématique le rock de la fin des années 60. Avec, bah là, on en est à 68 et c'est une année assez marquante. Il y a eu des albums
importants. Encore une fois, c'était une période assez fertile pour les groupes. Notamment avec Janis Joplin qui a fait ses deux albums, donc son premier album avec le Big Brother and the Holding Company, le Cheap Thrills, qui est assez caractéristique parce que c'est une petite BD là, qu'il y a sur la pochette de l'album. Donc voilà, deux albums dans la même année, deux énormes albums. Les Creedence qui ont fait leur premier album aussi, Deep Purple, premier album. Beckard's Banquet des Rolling Stones, qui Sympathy for the Devil, etc.
Ouais,
enfin, tout ce qui a marqué les... Tout ce qui a fait les Rolling Stones, voilà, il y a les Velvet Underground aussi qui ont refait un album, leur deuxième album en deux ans, enfin une période assez fertile.
Ouais, et donc on finit la 1968 avec les Fleetwood Mac. Le morceau s'appelle Cold Black Night et de l'album Fleetwood Mac. C'était original à l'époque, hein, on donnait le nom du groupe, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tout le monde a fait exactement la même chose. Pour la petite histoire, Fleetwood Mac, alors en fait, le nom du groupe est né de la contraction du nom du batteur qui s'appelait Mick Fleetwood et du bassiste qui s'appelait John McVie. Et là, le morceau de 1968, c'est Cold Black Night. Cold Black Night, excusez-moi. À l'époque, il y avait deux guitaristes marquants parce qu'il y a eu énormément de formations chez Fleetwood Mac.
Pas tant que ça, mais en tout cas, là, c'est la version, celle qui est la plus, qui a marqué, j'ai envie de dire, le plus l'histoire du blues, de la musique. Donc, c'est avec Peter Green et Jeremy Spencer, deux immenses guitaristes. Faut pas confondre avec la version qui est née un petit peu plus tard, en 1975, quand Peter Green et parti un petit peu, comment dire, en live. Hein. Bon, bah, tout simplement, il s'est fait interner dans un hôpital psychiatrique parce que ça allait pas très bien. Et voilà, c'est la nouvelle version. C'est la version contemporaine de 1975, qui est née en 1975 et qui propose une musique qui est radicalement différente, plutôt orientée vers une pop assez pop.
Ouais, mais là on reste sur le Fleetwood Mac que nous on aime, comme tu l'as dit, le Fleetwood Mac de 1968 avec Cold Black Night. It was a cold black night. Cold Black Night. Après 68, on passe évidemment à 1969.
On continue.
Ouais, 69, juste pour la petite histoire, on vous a sorti quelques éléments dont on doit se rappeler de cette année-là.
Marqueur.
Voilà, c'est la fameuse photo, voilà, avec les trois monstres là, qui étaient Brassens, Brel et Ferré. Tout le monde se souvient de cette photo. Ils sont tous les trois à table, photo noir et blanc, prise par François Rognier Christiani.
Je crois qu'ils fument tous sur la photo.
Ouais, et il y en a beaucoup de personnes se sont amusés à placer d'autres têtes à la place des visages de Brel, de Ferré et de Brassens. Ensuite, c'est aussi la mort de Brian Jones des Rolling Stones, qui a été retrouvé mort dans sa piscine cette année-là. Autre événement, tu en as parlé en intro, Neil Armstrong qui a marché sur la Lune. Et puis, c'était évidemment Woodstock aussi.
Oui, Woodstock, pour finir en apothéose ces années 60. Beaucoup de choses ont changé d'un point de vue politique ou économique. Après ces années-là, d'un point de vue culturel aussi, avec la notion de crise qui est apparue dès les débuts des années 70 avec le choc pétrolier, etc. etc. Voilà.
Ok, bah là, on va s'écouter un petit groupe, Led
Zeppelin. Ouais, Led Zeppelin, donc c'est le Led Zeppelin numéro 2. Le morceau, c'est Lemon Song, donc un morceau encore qui est ultra connu parce que c'est Led Zeppelin, mais qui n'est pas celui qui est le plus diffusé de Led Zeppelin, un morceau assez psychédélique, voilà, de Led Zeppelin fabriqué de ses propres mains, fabriqué par Jimmy Page de ses propres mains. Jimmy Page qui était un musicien de studio, qui a joué sur énormément d'albums, qui a notamment joué, j'avais appris, sur un album d'Eddie Mitchell. Ah. Où Eddie Mitchell lui expliquait un petit peu comment jouer, le son qu'il voulait. Je crois que c'était assez
cocasse
ouais, comme situation. Voilà, le plus grand, reconnu comme l'un des plus grands voleurs de blues de l'histoire de la musique. Ça, c'est plutôt les bluesmen black américains qui lui reprochaient un petit peu ça. Et quand on écoute Led Zeppelin, effectivement, on reconnaît qu'il y a des similitudes. Après, de là à dire que c'est du plagiat, c'est compliqué. Il a perdu des procès quand même, hein, contre Willie Dixon. Bon, ben voilà, je ne vais pas non plus ternir son image. On va écouter Lemon Song 1969, Led Zeppelin.
Down on this killing floor.
Lemon Song de l'album Led Zeppelin numéro 2, 1969.
Ouais, on va continuer, donc on va finir plutôt ces années 69 en s'apercevant
cette année 69.
Cette année 69, année heretique. Et j'ai le... Voilà, non, mais on s'aperçoit qu'il y a des choses un peu différentes qui apparaissent, notamment avec King Crimson, on l'a entendu avec Led Zeppelin, où il y a des choses un peu, petit peu plus psychédéliques qui arrivent, des concept albums aussi, à noter Tommy de The Who, le premier opéra rock.
Ouais.
Il y a des choses, Uma Guma de Pink Floyd. Enfin voilà, on arrive progressivement dans une nouvelle ère musicale où des choses nouvelles apparaissent, notamment avec la technologie aussi qui progresse
d'un
point de vue
musical.
Qui permet
de faire des sons nouveaux.
On est vraiment dans la société, dans les 30 Glorieuses quelque part, où les gens ont le temps de penser à la musique, créer une nouvelle technologie autour de la musique. On peut citer par exemple la pédale wah-wah, qui a été inventée par quelqu'un qui travaillait dans l'aviation, un ingénieur de l'aviation, qui connaissait les signaux, qui maîtrisait qui connaissait un petit peu comment ça marchait, les signaux électriques pour créer cela.
Ouais.
Il y a d'autres instruments qui ont été créés, qui ont permis cette modification.
Notamment,
tu parlais des
Pink Floyd, eux, c'était des malades, enfin, dans le sens
positif
du terme. Quoi. Ils faisaient des sons
qui réfléchissaient sur la musique, que ce soit King Crimson ou les Pink Floyd. Voilà. On vient progressivement à quelque chose de différent. Voilà.
Ok.
J'ai fini.
Bravo. On passe à 1970. Donc, alors, petit rappel historique, événement notable de 1970.
Sans
Houston,
être exhaustif.
Évidemment pas. Sinon, en fait, on pourrait. Je crois qu'on en a jusqu'à 2042,
le
rappel des faits. Donc, Houston, on a un problème. Voilà, c'est l'explosion de la réserve d'oxygène d'Apollo 13 proche de la Lune. Heureusement, sans conséquence pour les trois astronautes à son bord qui ont pu s'en tirer sains et saufs. Et puis 70 aussi, la disparition de Jimi Hendrix qui aura eu une carrière ultra courte.
Intense et courte.
C'est clair. Donc le premier morceau qu'on va écouter de 1970, c'est Timo, les Doors.
Ouais, les Doors, Maggie McGill. Donc voilà, est-ce qu'il y a besoin...
Excusez-moi.
Ça va sortir. A-t-on besoin de présenter les Doors?
Don't think so.
Voilà, c'est l'album Morrison Hotel. Donc rien à voir avec Jim Morrison. C'est le nom de l'album provient d'un hôtel ayant le même nom que Jim Morrison. Alors je sais pas ce qu'il faisait dans cet hôtel. Voilà, c'est pas l'album qui a eu la meilleure des critiques, mais le morceau est pas mal. On va l'écouter, Maggie McGill. Enfin, normal, on le passe, donc il est bien.
Évidemment. Évidemment. Tout ce qu'on passe, c'est le top du top.
Ouais, voilà, je vous passe quelque chose de nul. Donc, Maggie McGill et The Doors, Morrison Hotel, 1970.
Joseph
91.1
The first time I met the blues.
Maggie McGill, The Doors. Alors on va passer sur un autre groupe qui a marqué ses petites années aussi, hein, qui a marqué son petit temps.
Cactus.
Son temps. Cactus. Cactus. C'est un bon nom de groupe. Hein.
Ouais, ça pique un peu, quoi. Ouais, ça pique bien les oreilles, parce que tout à l'heure, tu parlais d'évolution du son, etc. Eux, selon moi, c'est vraiment les précurseurs, quand même, du hard avec un truc, mais bien lourdingue, quand même. Hein.
Exactement. Et précédemment, on a écouté Led Zeppelin et Jimmy Page, qui a créé lui-même hein, le groupe Led Zeppelin. C'était vraiment l'élément moteur. Il a voulu créer Led Zeppelin avec la session rythmique de Cactus pour dire que c'était des gens qui étaient quand même un peu dans le même monde, la même mouvance. Et notamment des gens qui étaient fortement influencés par le blues, on va en parler.
Ouais, et en fait, exactement, parce que ce morceau-là qu'on va vous passer, Cactus, You Can't Judge a Book by the Cover, c'est un morceau qui a été initialement interprété par Bo Diddley en 1962. Alors, Bo Diddley, c'était un gars de la Nouvelle-Orléans. On a passé un morceau de Bo Diddley dans une de nos dernières émissions qui était sur les Indiens de la Nouvelle-Orléans. Une super émission, franchement, grâce à notre ami Philippe Rosini, l'anthropologue, qui a étayé vraiment tous les propos qui ont été tenus.
Sur place.
Exactement.
Ouais, sa petite enquête entre guillemets hein, je dis ça.
Exactement, donc c'est franchement une émission documentée, et même aller sur studiozef.fr pour l'écouter d'une part, et ensuite pour voir les vidéos qui ont été faites sur place. Il y a plein d'infos, c'est quand même hyper intéressant. Et donc cette chanson là, You Can't Judge a Book by the Cover, elle a été écrite par Willie Dixon, un autre personnage dont on ne cesse de parler quasiment dans ce First Time I Met the Blues, parce que c'était un des piliers de Chess Records, le label. C'était un peu le mec qui conseillait les frères Chess, enfin, ou qui les influençait en leur disant bon, il faut que tu prennes celui-là, il faut que tu produises celui-là, il faut que tu fasses chanter celle-là. Bah, voilà, Willie Dixon, hyper important dans le monde du blues.
Donc voilà le morceau donc, de Bo Diddley, écrit par Willie Dixon, joué par Cactus, véritable machine de guerre. Avec un son assez puissant, on va les citer parce qu'ils sont assez connus dans le monde de la musique, des gens qui écoutent du hard. Donc Carmine Paice ou Apice, c'est quelqu'un d'origine italienne, sicilienne je crois. Tim Bogart, le super bassiste, vraiment exceptionnel. Rusty Day au chant avec une voix assez particulière, et Jim McCarthy à la guitare. Bah, on écoute You Can't Judge a Book by the Cover by Cactus.
Thank you.
Écoutez la machine Cactus, la machine à créer du rock. Voilà.
You can't judge a book by the cover. C'est à méditer aussi, ça.
Ouais, exactement. Ouais.
Mm. Ouais.
Ouais, c'est ce que je pensais en écoutant le morceau, là. Un morceau qui a relevé l'ambiance dans le studio.
Hein. Ah, c'est chaud, c'est ultra chaud.
La température a grimpé d'un coup, là.
C'est clair. Donc, c'était du Cactus, le premier album. Hein, Cactus, d'ailleurs, des années, de l'année 1970. Une année qui a été aussi
prolifique.
Riche. Hein, voilà, exactement. On va énumérer quelques albums. All Things Must Pass de George Harrison.
Ouais, d'ailleurs, All Things Must Pass comme un clin d'œil à la fin des années 60 et à la fin des Beatles.
Il faut que ça change, ouais.
Il faut que ça change, ouais.
Il faut passer à autre chose. Aussi, bah, le dernier album de Jimi Hendrix, Band of Gypsies, Cosmos Factory des Creedence, Funhouse des Stooges, Let It Be des Beatles, Live at Leeds des Who, Sex Machine de James Brown. Et puis, bah, pour finir, évidemment, la liste est très très longue et non exhaustive. Là, on finit avec Atom Heart Mother des Pink Floyd.
Ouais. Atom Heart Mother, et c'est ce qu'on va écouter. Donc c'est l'album avec la vache pour les gens qui écoutent les Beatles, qui est les Pink Floyd, excusez-moi. Et c'est un album, moi, que j'aime tout particulièrement. Voilà, c'est l'album qui a lancé le groupe dans la voie du psychédélique. Réellement, donc mère au cœur atomique, Atom Heart Mother, c'est ce que ça veut dire. C'est un album qui part vraiment dans tous les sens, entre folk, pop, psyché, musique classique aussi un petit peu, notamment avec l'intro, là, qui est assez, l'intro de l'album qui est assez particulière. Enfin, l'intro, le morceau dure un quart d'heure, je crois. Mais bon. Voilà, et c'est David Gilmour qui était, qui était donc le guitariste de Pink Floyd, qui était... interrogé par Mojo Magazine en 1994 et qui disait, voilà, en évoquant cet album, à l'époque, nous pensions que Atom Heart Mother, comme Uma Guma, était une étape vers quelque chose d'autre. Maintenant, je pense que nous avancions à l'aveuglette et dans le noir. Voilà. C'est pour relativiser le côté génialissime qu'on peut penser, enfin en écoutant les albums, on se dit oui, c'est des génies.
Ouais, mais en fait, ils n'étaient pas forcément hyper réfléchis, quoi. Enfin, bah, on ne savait pas vers où ils allaient, quoi. C'était expérimental.
Que c'était des gosses, des jeunes de 25 ans qui créaient, quoi, qui avaient plein de machines, des espèces de synthétiseurs qui prenaient la taille de la pièce du salon, enfin des choses assez énormes et qui bricolaient dans leur coin pour faire de la musique, créer du son. Et on va écouter donc Summer 68. C'est le morceau qui reflète particulièrement bien l'ambiance de l'album, entre classique, psyché. Il y a quelque chose de pop aussi. On écoute ça.
Allez.
Summer 68.
Stay.
Studio Zef
91.1
The First Time I Met The Blues.
Voilà, nous finissons avec Summer 68 et Pink Floyd comme une ode mélancolico-psychédélique à la fin des 60s.
Un morceau des années 70. Voilà, on espère que cette émission vous a plu. C'était le rock de la fin des années 60. Ouais. Et puis, bah, évidemment, vous pouvez la podcaster sur le site de studiozef.fr et toutes les autres émissions sont présentes également avec des infos, des vidéos. Il y a la playlist à chaque fois, évidemment. Et il y a, en plus des émissions, une playlist, bientôt deux. Donc si vous avez envie d'écouter
on
du bon son...
On vous prépare une petite surprise.
Made in Zelix.
Ouais.
Donc si vous avez
DJ
écouté
Xavier
du...
de Haute-Savoie, de Radio de Bleu.
De Haute-Savoie, de,
ah,
de Haute-Loire.
Ah, on ne sait plus d'où il est, celui-là.
Il est partout. Enfin bref, si vous voulez écouter du son un soir, vous ne savez pas quoi faire, quoi mettre.
Ou si vous avez envie d'ambiancer vos amis. Voilà,
ouais, franchement,
simplement.
Allez sur studiozef.fr, l'émission... The First Time I Met The Blues, playlist et hop, play, c'est parti et c'est top. Évidemment, toutes les émissions de nos potes et confrères et collègues de Studio Zef sont également podcastables et génialissimes.
Ouais,
voilà, et
profitez-en. Profitez-en.
Profitez-en.
Profitons-en.
Mais ça, profitez-en, c'est un médicament, ça, non?
J'en sais rien.
Bon, allez, salut, à plus.
Allez, salut,
ciao.
À plus.